avez été à l'origine d'une proposition de loi pour un partenariat civil, c'était en 1990.
Bravo.
On peut considérer que c'était le précurseur du PACS. Pour s'y rappeler que vous êtes prononcé très tôt pour l'ouverture du mariage aux homosexuels. Vous étiez plus réticent sur la question de l'adoption et de la procréation médicalement assistée. On va en parler ce soir, savoir ce qu'il en est. Merci d'être avec nous.
Alors, question générale, comme à l'ensemble de nos des candidats qui nous ont fait le plaisir de se déplacer ce soir. Donc, si vous êtes élu président de la République, de quelle manière vous engagez-vous à améliorer concrètement les droits des personnes lesbiennes, gays, bi et trans, et de quelle manière comptez-vous lutter efficacement contre la discrimination par raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, et dans quel délai?
Bon, ben merci. Vous savez qu'il y a quelque chose d'assez vulgaire et grossier dans les institutions de la Ve République, c'est qu'on ramène tout à une personne. Donc d'une certaine manière, ce soir, le mieux que vous puissiez faire, c'est de constater quelle est la qualité de ma formation qui résulte des travaux de la commission LGBT du Front de Gauche et des partis qu'il constitue. Alors j'ai pensé que le plus utile, c'était de commencer peut-être par, ne vous inquiétez pas, je n'échapperai pas aux précisions, mais par parler juste un instant au moins de philosophie. Parce qu'après, on a un fil conducteur, et moi, ça m'aide à savoir comment je vous réponds à ce que vous voulez. Donc le point de départ, oui, c'est la seule manière que j'ai trouvé pour moi-même de penser. Enfin, sinon quoi? Je suis un mâle méditerranéen classique, et voilà, tout est dit. Embarquez-vous. Maintenant, comment j'ai commencé à réfléchir, parce qu'à chaque fois je croyais avoir trouvé une réponse ponctuelle, je m'apercevais qu'il y en avait une autre qui venait derrière, vous l'avez évoqué, la question de l'adoption, puis celle-ci, puis celle-là, et à chaque fois, il fallait reprendre le raisonnement à zéro. Mais quel est le fil conducteur? Au fond, pour l'universaliste que je suis, l'angle le plus intéressant d'entrer dans la réflexion, c'est par le transgenre. Je vais dire pourquoi. Parce que c'est à ce moment que cesse l'assignation à une identité. Et que, non seulement pour ceux qui doivent passer la frontière, il s'agit là d'une frontière, d'un archétype qui constitue en soi une frontière, non seulement pour celle ou celui qui franchit la frontière, mais aussi pour celui qui essaye d'y réfléchir, parce qu'il réfléchit à ses frères et sœurs en humanité. Et là, tout d'un coup, apparaît avec une force aveuglante que même ça, ça ne décrit pas un être humain. Même son assignation sexuelle, même son assignation genrée, ce n'est pas cela l'humain. Et donc, ce qui est l'humain, sous cet angle, c'est son identité universelle. Quelque chose qui est encore plus loin que toutes les apparences. On était habitué à cette idée des apparences, parce que quand on dit les hommes, c'est-à-dire les personnes humaines, les personnes humaines naissent égales et demeurent égales en droit, on est déjà habitué à cette idée que contre toute évidence, nous sommes égaux. Grands, des petits, des gros, des mecs, des hommes, des femmes, on sait bien que c'est un effort de raison, c'est par la raison que nous comprenons que nous sommes égaux. Eh bien, quand on réfléchit à partir du thème du transgenre, de la réalité du transgenre, on accède d'une manière absolument brûlante à cette idée que l'identité fondamentale de l'être humain est une identité universelle et que tout le reste, en quelque sorte, ce qui est accidentel, c'est tout le reste, ce qui est essentiel, c'est cette universalité. Donc, une fois qu'on a posé ça, on est dans le même ordre de déduction qu'on l'est, par exemple, sur le thème de la laïcité qui postule précisément que toutes les personnes sont égales en droit. Donc, on débouche directement sur l'exigence d'une absolue égalité en droit. Mais on la fonde philosophiquement. Elle ne résulte pas simplement d'une protestation qui aurait sa légitimité ou d'une négociation avec un groupe, une communauté ou je ne sais quoi qui serait la négation du républicanisme qui m'anime. Donc, à partir de là, tout bien simple. Aujourd'hui, mes lunettes, je ne suis pas en raté. Déjà, on commence par se débarrasser d'une dimension qui est obsédante. Vous, pas pour vous, peut-être, pour vous, parce que pour tous ceux qui le subissent, mais qui est obsédante dans tous ces débats, c'est la dimension de l'exigence qu'on doit avoir de dépsychiatrisation, dépathologisation, déjudiciarisation de la bienveillant et en réalité en nous offensant comme jamais. Et on doit ensuite bien comprendre que si toute assignation résulte en quelque sorte de l'accident au sens philosophique, hein, c'est-à-dire de la circonstance. Quel est l'adversaire? On a donc un archétype qui est là derrière, qu'on ne voit pas, et qui est le même qui ressurgit quand on dit on raisonne sur les questions du féminisme ou quand on raisonne sur les autres questions, c'est le patriarcat. Le patriarcat est la structure culturelle de l'ensemble. Là, c'est le savoir qui va nous libérer. Alors après, l'égalité des droits, ça c'est fastoche. Le mariage républicain, puisque vous voilà tous entichés dans le socialisme que je trouve... Moi, je pensais avoir bien avancé sur la question avec ce qui est devenu le PACS. À l'époque, j'appelais ça partenariat civil. Parce que c'était l'extension à tous les couples des droits qui s'attachent aujourd'hui aux couples hétérosexuels. Et on partait donc de l'analyse des droits qui conviennent à une vie de couple. C'était donc plus intéressant, plus distancié par rapport à n'importe quelle assignation sexuelle, genre, ou ce qu'on voudra. Donc il paraît qu'il faut tout pris par les générales, tant mieux. Le mariage républicain, parce que pour moi, le mariage homosexuel, je comprends ce que ça veut dire. Vous faites ce que vous voulez, mais si vous le savez peut-être bien, mais moi je l'ai découvert, laissez-moi au moins le temps de faire... Vous pouvez crier ce que vous voulez, j'entends mal, donc... des discriminations positives qui fonctionnent aujourd'hui pour les riches et qu'on appelle privilèges. Et cette nuit de transition, on pourrait se dire, eh bien voilà, on se donne pour objectif, la nuit du 4 août 2012, nous reprendrons l'abolition, la mécanique d'abolition des privilèges de celle du 4 août 1789, et ce jour-là, on ne sait pas si moi le cas, on fait passer tout ce qu'on a à dire sur le mariage, la reconnaissance immédiate de l'homoparentalité existante et réelle, celle que nous voulons organiser, ainsi que les droits de filiation plénière, exactement comme en 1789, on a d'un seul coup aboli, autorisé le divorce, aboli la distinction qui classait les enfants naturels hors état civil, et ainsi de suite. Donc on pourrait se donner cet objectif-là, et en particulier, ça serait l'occasion d'instituer, peut-être, hein, si vous en êtes d'accord, si ceux qui sont dans la salle ce jour-là, qui ont élus pour ça, on sont d'accord, parce que moi je serais peut-être déjà rentré chez moi, la transcription dans le droit français de la disposition 1728 du Conseil de l'Europe récent, qui je crois joue un grand rôle dans la réflexion actuelle. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, qui nous renvoie à l'essentiel de nos rencontres, c'est à mon tour de proposer un renversement des questions. Pas seulement se demander quel droit, quelle liberté, etc. Je crois avoir réglé cette question de principe. C'est le renversement des questionnements. Quels sont les droits et libertés pour lesquels le mouvement LGBT se bat, qui sont réalisables dans le cadre de tel ou tel programme? C'est bien gentil de faire défiler tout le monde est à égalité, on dose d'après la question qui est posée ici par le mouvement LGBT, mais la question qui se pose aussi, c'est quelle est la contribution du mouvement LGBT à l'émancipation collective de la société.
L'égalité. Et donc,
à savoir, oui ou non, la plateforme revendicative avec les politiques d'austérité. Et j'attends qu'on m'explique comment c'est possible d'avancer si peu que ce soit ce programme, notamment par exemple quand on dit c'est à l'école qu'il faut évidemment il faut que ce soit à l'école. Où est-ce que ça va être? C'est là qu'on éduque. Hein. Et puisque, comme je l'ai déjà dit, la question de l'orientation sexuelle, pour ne prendre que cette affaire-là, c'est pas un choix, c'est un fait. Par conséquent, de toute façon, je l'ai entendu stupidement dire par la droite populaire, une espèce de réflexion sérieuse sur la situation réelle des gens. Alors, comment vous faites ça? Comment vous faites la formation des personnels? Comment vous faites les recrutements supplémentaires qui sont nécessaires si l'on veut traquer les mauvais traitements, si l'on veut aider... comment on fait si on ne peut pas embaucher de personnel? Comment on peut embaucher du personnel si on est dans une politique de compression de la dépense publique? Même remarque pour la santé. Comment vous faites pour prendre les précautions qu'il faut prendre, faire les campagnes de prévention, les campagnes de réparation quand il y a lieu, si on est dans une politique de démantèlement de la santé et chacun se paye sa santé? Ça ne colle pas. Comment c'est jouable si vous n'embauchez pas et si vous ne formez pas? Embaucher, former, et en même temps, la base des inspecteurs du travail qui peuvent inscrire les discriminations genrées dans la liste des choses qui sont inscrites. Ça ne colle pas. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que vous êtes de beaux hypocrites si vous défendez votre plateforme et que vous vous confiez à des gens dont il n'est pas prévu qu'un seul centime d'euro soit prévu à l'application de la plateforme. Définitivement. Nous militons pour la 6e République et le projet de 6e République nous a conduit à proposer l'inscription de 3 droits fondamentaux. Ça, c'est vraiment la fin, ça rattrape le début de mon propos. Les droits fondamentaux, c'est tous ceux qui nous permettent de dire, voilà, tout ce que nous avons vécu nous permettent de dire qu'il y a des droits fondamentaux qui ne sont pas dans nos habitudes culturelles, dans ceux qu'on énonçait jusque-là. Et ce sont les droits qui nous confrontent aux limites de ce qui paraissait hier être une évidence et qu'il faut protéger. Par exemple, la libre disposition de son corps pour qu'une aptitude ne soit pas un destin. C'est-à-dire qu'on mette comme droit fondamental dans la Constitution la question du droit à l'avortement, parce que ce droit est censé être un deuxièmement, le droit de décider, je veux choquer personne, mais je dis les choses, hein, le droit de décider de sa propre fin de vie, comme de la limite absolue du fond de la liberté. Et le troisième, ça viendrait en une phrase, mais je pense qu'il y a des gens plus forts que moi qui trouveraient une manière plus simple de globaliser une expression. La seule que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de dire extension à tous les couples des droits qui sont aujourd'hui attachés aux couples homosexuels. Ça arrête ça, je vous ai dit. Voilà les droits que j'ai pensé mettre. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? C'est incroyable, c'est pire qu'une église ici. Si on se trompe d'un mot, on est mort. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté.
Changements fondamentaux quand même de société, quelle marge de manœuvre pour que ça soit une priorité à votre arrivée?
Honnêtement, moi j'espère en avoir aucune, parce que je suis contre le pouvoir personnel, je suis contre...
C'est souvent l'affaire d'un homme.
Non mais c'est bien ce que je disais au début, c'est-à-dire que je dise pas l'affaire d'une personne. Bon, nous aurons une majorité parlementaire, je l'espère, si nous convoquons une constituante, les gens qui seront candidats auront à se présenter devant le peuple en disant voilà ce que je vais y faire. Et je pense que si les électeurs n'iront pas leur demander de faire un cours de droit constitutionnel chacun, mais ils diront, vous allez défendre quels droits fondamentaux? C'est là qu'on aura notre tâche et notre part politique, car moi ce que je sais, c'est que les candidats qui viendront de Laurent, ils s'engageront sur ces libertés fondamentales. De toute façon, vous avez comme garantie ce que nous-mêmes nous en disons dans nos commissions LGBT, c'est pas seulement l'original Jean-Luc Mélenchon, heureusement, parce que si vous en étiez remis à une personne, il suffirait de se débarrasser d'une, et le problème est réglé, mais il manque de bol, c'est pas possible.
Une autre question, vous êtes député européen, comme après la même question que pour Eva Joly tout tout à l'heure. C'est vrai que souvent, les directives européennes et les politiques européennes ont pu faire avancer en France le droit en termes de discrimination. Nos associations portent le fait que nous souhaiterions en tout cas que la France soit plus active dans le futur pour porter une nouvelle directive transversale sur les discriminations. Comment voyez-vous, comment positionnez-vous les questions LGBT et lutte contre les discriminations dans le cadre des politiques européennes et internationales?
On va avoir un mal de chien. Je préfère vous prévenir d'avance. La majorité du Parlement européen, le Parlement européen fait beaucoup de travaux qui sont purement symboliques, des résolutions, des motions, etc. Le pouvoir partagé se limite à quelques cas. Donc dans le cadre actuel, déjà, le Parlement européen peut jouer un rôle, mais ce n'est pas le rôle essentiel. Le rôle essentiel, c'est le Conseil de gouvernement et dans son dialogue avec la Commission. L'Europe est actuellement largement dominée par des réactionnaires dont vous n'avez pas idée. Il faut les voir au Parlement pour se rendre compte. Pourtant, mais nous, les Français, même de droite, on a comment le souffle coupé de réactionnaires. D'abord, un mélange des genres qui est absolument invraisemblable entre la religion et la politique, qui conduit, je ne veux pas offenser la foi ni la religion, mais quand on mélange les deux, le résultat, vous le savez bien, est toujours désolant. C'est la première fois dans ma vie que je vois un Parlement, une présidente, offre à son prédécesseur une vierge en charbon. C'est-à-dire le symbole d'un bout à l'autre est absurde. Ensuite, quand on a voté il n'y a pas longtemps une directive, on se prononçait sur un texte circulaire à propos de, d'une manière générale, les discriminations qui sont faites à l'encontre des femmes. Dans le texte, il y avait un amendement. Je ne sais pas, en le lisant, moi je me dis, ah ben tiens, ils ont oublié ça, c'était même curieux. Et on marquait dedans que le refus de procéder à l'information au partage des moyens pour la maîtrise de sa propre fécondité était une atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Même quelqu'un de droite chez nous, à part la droite populaire et les fachos, mais les autres, oui, ouais, c'est évident. Ah ben eux, non, ils ont voté contre. Et on a vu comme ça, à chaque fois qu'il est question de transgresser l'ancien ordre patriarcal, mais le plus rustique, le plus grossier, il faut s'en expliquer 2 heures avec chaque personne pour expliquer que vous n'êtes pas un instrument de débauche ambulant, vous respectez les autres, enfin c'est incroyable. Sous l'influence principalement d'église catholique, il existe, je parle bien de l'église catholique, je ne parle pas des croyants chrétiens, ce n'est pas mon sujet, je parle de l'intervention de l'église catholique qui a des droits particuliers puisque le traité de Lisbonne on dit que la Commission doit entretenir un dialogue permanent avec les religions, ce qui ne s'imagine pas ici en France, et c'est une grande stupidité d'avoir laissé passer ce texte, car on ne reconnaît pas le même droit au syndicat. Il n'est pas écrit qu'il doit avoir un dialogue permanent avec les syndicats, avec les églises, oui. Devinez, vous parlez de quoi ? Voilà. Donc on aura beaucoup de mal. Et moi je crois, je termine là-dessus, moi je crois à la force extraordinaire de contagion de la liberté. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une brèche, pfiouf, tout le monde se dit, ah oui, tiens, pourquoi on ne ferait pas comme ça? La preuve, nous, avec cette fameuse résolution 728, à laquelle tant de copains et copines sont accrochés, parce que ça émane d'un organisme, Conseil d'Europe, tout ça, et on se dit, pour une fois, si vous ne pouvez pas être à la traîne, parce que quand même on a été, j'aime pas parler comme ça de mon pays, vous savez, j'aime pas ce mot à la traîne et tout, mais on n'a pas été toujours très brillants, disons, par exemple pour le droit de vote des femmes, par exemple pour la contraception. On n'a pas été très brillants pour tous les sujets. Le mariage républicain, pareil, on n'est encore pas à l'avant-garde. Donc j'aimerais bien que pour une fois, mon pays soit à l'avant-garde d'une diversité, au fond, qui touche au cœur de l'identité de la personne, et en particulier le fait d'avoir le droit, sans être persécuté ou soumis à d'humiliantes inquisitions, d'avoir une identité civile et sociale qui corresponde à sa propre déclaration personnelle, qui s'embête, quel problème ça pose, qu'est-ce qui contraint une telle cruauté. Je pense que chacun d'entre nous doit essayer de se rendre utile à travers sa propre démarche. Moi, j'ai toujours pensé à la chose suivante. Chaque fois qu'une liberté, qu'on est appelé à réfléchir à une liberté, ça a été typiquement ma démarche. Honnêtement, moi, je n'avais rien à voir avec les mouvements gays. aux années 1980-90. C'était pas mon monde, je ne connaissais rien, c'était pas mon monde. Les mouvements, je parle des mouvements organisés. Et c'est à l'issue d'une conférence où je m'étais cru très intelligent, mais j'étais passé à côté de tous les problèmes des gens qui se trouvaient là, que quelqu'un m'a dit avec beaucoup de gentillesse, j'insiste là-dessus. Pourtant, ils étaient super écorchés. Hein. Ils l'ont dit avec une gentillesse qui m'a ouvert l'esprit, m'ont raconté ce qu'était la situation des couples homosexuels lorsque l'un des deux venait à décéder. Et j'en ai été bouleversé parce que je me retrouvais en face de ces situations que j'estime être à la base de l'engagement d'une personne de gauche et que vous êtes toujours du côté de celui qui n'a pas la parole, celui qui est humilié, qui est nié. Bon. Et je leur avais dit, je n'oublierai pas, et en effet, je n'ai pas oublié, j'ai fait la loi sur le partenariat civil. J'ai trouvé 6 parlementaires dans mon groupe, j'étais socialiste à l'époque, j'ai trouvé 6 pas en plus pour signer ça. On me disait qu'il y avait plus urgent, on dit toujours ça. Et les communistes avaient bien signé avec moi, ils m'avaient donné un sacré coup de main. Donc là, c'est la même situation. Si on crée le partenariat civil, c'est pas seulement pour ceux que ça concerne d'abord, c'est pour tout le monde. L'espace de liberté qu'on ouvre, c'est un espace universel. Moi, j'étais partisan de ce que le partenariat civil soit étendu à qui que ce soit. Je vous ai mentionné mon appartenance à la culture méditerranéenne, hein, puisque je suis né là-dedans. Mais chez nous, par exemple, à la fin de nos anciens, on mettait le tonton, la tata qui était tout seul, les deux tatas, les deux tontons, bon. Et on louait l'appartement ensemble, et lorsqu'il y avait malheur dans la famille, patatras, commençait un truc qui était épouvantable. Donc je dis, on devrait faire en sorte qu'on crée des droits pour toute personne, quelle que soit la nature du lien affectif qu'elle construise, qui ne peut pas être forcément un lien de couple. Et on étendait cette liberté, deux personnes qui ont assez d'amour, l'une pour l'autre, que ce soit de l'amour fraternel, ou quelque forme d'amour que l'on veut, pour décider de partager une vie et un bout de destin en commun, eh bien, la société, non seulement l'admet, mais l'encourage. Elle trouve que c'est bien et prend les mesures qu'il faut pour que ça aille. Donc, vous voyez, je pense que le mouvement LGBT peut apporter beaucoup, non pas seulement à lui-même, mais à la société. Et que pour ça, il faut que les mêmes les inspirent. Et par conséquent, je crois qu'il y a un rapport entre le politique de gauche et l'amour d'une manière générale.
Merci, monsieur.